Bonjour et bienvenue à ce second rendez-vous de Mon Clavius. En premier, merci pour les partages, les commentaires et les bons mots que vous avez eus pour la première émission avec comme invité le Réseau Action TI. Et on apprécie beaucoup ces commentaires que vous avez effectués sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, ça nous encourage à poursuivre dans la bonne voie. Pour cette seconde édition, pour le podcast de Mon Clavius, on va recevoir Frédéric Hébert de Saglac IO. Ils vont avoir une importante conférence durant une journée avec des plus de 175 programmeurs qui vont être réunis à Saguenay. On en discute dans quelques secondes avec Frédéric Hébert de Saglac IO. Comme je vous le disais dans l'intro, un bel événement arrive au mois d'octobre. C'est Saglac IO à Saguenay. Et notre invité, c'est Frédéric Hébert, qui fait partie presque des premières personnes au niveau de Saglac IO. Il fait partie du comité organisateur. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Ça fait combien de temps? Explique-moi un peu la création de Saglac IO. Moi, je m'en souviens, c'était allemand. J'avais écrit un article à l'époque où c'était à l'Exode Café, dirigé par Agathe Bouchard, où ça se réunissait, c'était en alternance une fois Allemagne, une fois Saguenay. Je me souviens qu'il y en avait même une à l'époque à Dolbeau. Est-ce que c'est encore sur cette façon-là? C'est plus Saguenay? Explique-moi un peu.
Oui, ben en fait, ça a commencé en 2013, puis c'était JP Boilly qui revenait de l'extérieur de la région. Puis il avait été souvent à Québec, il y avait des activités comme le Open Hack, où ce que des gens se rencontraient pour souper, travailler sur du open source, dans toutes ces choses-là. Puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de semblable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il a décidé vraiment de commencer l'événement lui-même à ce point de vue-là, pour les passionnés de technologie dans la région. Moi, personnellement, quand je suis joint, je crois qu'il y avait déjà eu quelques sessions qui avaient été faites. Ça fait environ 5 ans que j'y suis. Puis, le fonctionnement est encore vraiment, oui, en alternance Alma et Saguenay, sauf qu'on voit un petit peu moins souvent Alma qu'on y allait par le passé. Avec les années, de la façon que ça a grandi, ça a vraiment rapport avec les salles qui sont disponibles, ces choses-là, parce que s'il y a 5 ans, on avait des fois des groupes de 10 ou 12 personnes, ça arrive ces temps-ci qu'on peut avoir des personnes de 25, des groupes de 25 jusqu'à au-delà de 50 personnes dans certains cas. Donc, pour nous, point de vue de restaurant, vu que c'est complètement organisé de façon bénévole, on a tendance à le faire un petit peu plus fréquemment au Saguenay ces temps-ci. Mais oui, ça fait 5 ans, la formule est sensiblement la même, où est-ce qu'à chaque fois que les gens se présentent, on a un peu de temps libre pour que les gens mangent, boivent, payent leur propre consommation la plupart du temps. Puis ensuite, on a une première ronde de présentation de groupe, où est-ce que c'est toujours les mêmes questions. C'est quoi votre nom? Où est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui vous fait triper présentement? Puis on apprend à connaître un peu les gens comme ça. Puis ensuite, on a une, deux ou des fois trois présentations un petit peu courtes, de 15 à 20 minutes, qui vont vraiment être sur les quelque chose qui passionne la personne qui décide de présenter. C'est toujours des gens bénévoles qui parlent de leur plein gré, puis qui font ça pour le plaisir de le faire. Puis c'est vraiment une petite communauté qui s'est bâtie à travers les années, puis qui continue de grandir de plus en plus.
Ce qui est bien avec cette communauté, tu le disais, c'est vraiment bénévole. Oui. Et depuis tout le temps, ça n'a jamais changé. C'est vraiment des tripeux, on va dire, des passionnés qui se réunissent. Et vous avez créé une communauté autour de vous. Ça a commencé petit, mais là, maintenant, il y a une vraie communauté autour de vous qui vous appuie.
Oui, c'est ça. On a vraiment le groupe. Puis même au niveau, parce qu'au début, c'est JP qui organisait tous les événements. Éventuellement, lui avait moins de temps. Moi, j'en ai repris quelques-uns. Ou est-ce que c'est moi qui faisais un petit peu les réservations, toutes ces choses-là. C'est tombé à une autre personne, Jessica Lapointe. Présentement, c'est Émile qui est sur le comité de la conférence aussi, qui est un semblable, relié, pas exactement le même groupe.
Émile Bergeron, qui travaille à Ubisoft.
Oui, chez Ubisoft présentement. Et puis c'est lui présentement qui fait le gros des organisations de toutes ces meet-ups-là qu'on fait de façon mensuelle. Par le passé, je sais qu'il y avait déjà eu aussi des open hacks qui étaient vraiment les soupers pour programmeurs qui étaient dedans vraiment pour travailler pendant une soirée sur des projets en groupe. Ceux-là ont arrêté un petit peu parce que justement, il n'y avait pas nécessairement assez de gens qui ont repris le relais pour organiser ceux-là. Mais c'est vraiment, comme on disait, bénévole. Si des gens veulent se présenter ou commencer des choses, peuvent le faire. Puis nous autres, on est toujours ouverts à cette participation communautaire-là.
Sur les réseaux sociaux, j'ai vu il y a à peu près quelques mois, vous avez fait quelque chose chez Stas. Pas chez Stas, chez Conformit.
Oui, chez Conformit.
70 personnes, ça se peut?
Oui, ça arrive. En fait, on a grandi quelques événements. Chez Conformit, c'en était un. C'était la première fois où est-ce qu'on était ou l'une des premières fois qu'on a été hébergé par une compagnie de la région qui, à ce moment-là, offre de couvrir le souper que d'habitude on fait en restaurant et donne la salle pour qu'on fasse nos présentations comme d'habitude. Puis ça reste vraiment communautaire dans cet ordre d'idées-là du point de vue où est-ce que c'est pas une publicité nécessairement pour confirmer peuvent avoir une personne qui présente sans que ça soit un pitch de vente ou ces choses-là. Puis pour nous, c'est vraiment pour les gens des TI. Donc ça reste quelque chose qui va intéresser les programmeurs, dans certains cas des designers ou encore les administrateurs de système. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on veut focusser. On veut garder la formule communautaire dans ce qu'on a de vraiment... ça ne devient pas un pitch de vente hébergé par des compagnies ou ces affaires-là. C'est vraiment juste que ces compagnies-là veulent s'impliquer dans la communauté. Puis une autre chose qu'on a faite, puis qu'on fait de plus en plus, une ou deux fois par année, on s'allie avec l'UQAC pour aller faire des présentations directement au bench UQAC dans ces affaires-là pour les étudiants à ce point de vue-là. Parce que souvent, l'organisation étudiante va payer des pizzas, des consommations, ces choses-là. Puis on fait la présentation sur place. Puis d'habitude, c'est là qu'on a les plus grands groupes, où je pense qu'on a dépassé les 50-70 personnes plus d'une fois.
La moyenne d'âge, ça ressemble à peu près à quoi? Puis la clientèle qui vient, c'est-tu des gens à la recherche d'emploi? C'est-tu des personnes qui travaillent? Peux-tu un peu me faire un portrait de la clientèle des personnes qui viennent assister à vos conférences?
Oui, mais je dirais que la clientèle représente plus ou moins ce qu'on a comme programmeur dans la région, qui veut dire que, quand même un peu malheureusement, c'est beaucoup juste des hommes blancs de 20 à 30 ans. On en a une bonne partie qui vont être étudiants en fin de bac ou de maîtrise. On en a plusieurs qui sont sur le marché du travail. Quelquefois, il y en a qui sont là à la recherche d'emploi aussi. Puis ça arrive que des compagnies qui envoient des gens aussi pour faire, je dirais, un peu de recrutement en même temps, quoi qu'on ne lui donne pas une place officielle de recrutement, ça se fait de façon réseautage dans les périodes libres. Mais c'est vraiment comme ça. Puis oui, on a certains qui sont plus vieux dans les développeurs, on a certains qui sont plus jeunes aussi. Mais généralement, on essaie de voir ce que ça représente, ce qu'on a comme, je dirais, le make-up qu'on a démographique des programmeurs en région.
Est-ce que ça existe ailleurs au Québec, un regroupement comme le vôtre?
Oui, il y en a quand même. C'est une formule quand même assez fréquente. Je pourrais pas dire s'ils ont exactement la même formule, mais des groupes d'utilisateurs comme ça, de gens passionnés, il y en a quand même à d'autres endroits dans les plus grandes villes. Puis plus la ville est grande, plus ils en ont à ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les grandes villes, ça va être des gens qui sont focusés autour d'une communauté. Donc, si on a des développeurs Java, ça se peut qu'il y ait un groupe d'utilisateurs Java, dans certains cas, juste pour le web ou juste pour certaines choses. Puis, en étant en région ici, c'est qu'on est un petit peu trop petit pour avoir ces groupes fragmentés-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe vraiment général où on peut avoir une présentation sur un langage de programmation complètement obscur, suivi de une qui va vraiment avoir rapport à de l'administration système. La semaine d'après, c'est complètement d'autres choses. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose que je trouve très intéressant que ça soit généraliste à ce point de vue-là. On n'est pas assez nombreux pour avoir 8 petites communautés, fait qu'on en a une plus grosse que, c'est vraiment des gens de plein de domaines mélangés.
Et qui détermine les sujets qui vont être abordés? Est-ce que c'est un peu décidé à l'avance? C'est-tu un comité qui se réunit?
C'est décidé un petit peu à l'avance pour les meet-ups. Du moins, ce qui est, on a un Slack, un Facebook, ces choses-là. Puis les gens qui sont intéressés à présenter nous rejoignent. Puis d'habitude, on a toujours une ou deux personnes qui vont comme ça. Puis on n'a pas eu à se battre vraiment pour l'horaire à ce point de vue-là. Des fois, on en a un petit peu plus, puis les gens sont prêts à y aller le mois d'après. Étant donné que ça reste une communauté de gens qui font ça pour les temps libres, pour le plaisir, ça ne dérange pas nécessairement de délayer d'un mois, mais on n'a jamais vraiment eu de conflit à ce point de vue-là. Quand on tombe à la conférence, là c'est différent, la conférence on s'est donné une plus grosse structure, où est-ce que c'est les trois organisateurs, moi, Emile et JP Boilly justement, et là on a vraiment un horaire pour une journée, où est-ce qu'on a fait un appel public pour les présentations, on a rejoint des gens à l'externe pour deux keynotes qu'on voulait amener dans la région à ce point de vue-là, et puis là on fait vraiment une décision prise d'avance, où est-ce qu'on veut avoir une certaine, je dirais, qualité au programme, où qu'on balance les présentations, que ce soit sur des sujets assez variés pour intéresser tout le monde. Puis là, on est dans une structure vraiment plus classique d'appel public bien défini d'avance, puis un horaire établi d'avance aussi. Oui.
Parce que là, la grosse activité qui s'en vient, c'est vraiment votre conférence, c'est une journée complète.
Oui.
Qui va avoir lieu, quelle date?
C'est le lundi 7 octobre au Montagnat.
En Montagnat.
Oui.
Puis, vous attendiez au début, j'ai parlé avec oui. JP Boilly. Il dit 125?
Notre objectif au début, c'était d'avoir au moins 100 personnes qui venaient. Ouais. Puis, s'il y a lieu de reviser à la hausse, ensuite, on s'est rendu environ à 125. Puis là, dernièrement, au dernier décompte, on était rendu environ à 170 personnes attendues. Puis là, on met quand même notre cap à ce niveau-là, étant donné que c'est la première édition. On ne veut pas prendre des bouchées plus grosses que ce qu'on serait capable de faire non plus. Puis oui, on fait notre essai avec ça. On devrait avoir 170 personnes une fois tous les billets vendus. Puis on est très près d'avoir terminé. Là.
Gros succès pour ce premier événement. Ce qui
annonce. Oui, ça planifie déjà.
Ça planifie déjà.
On espère que ça va l'être une fois que les choses sont bien faites et tout établi. Mais oui, pour le moment, ça augure bien.
Qu'est-ce que. Est-ce que déjà dans votre idée, on pense à une deuxième année, un second événement? Est-ce qu'on prépare doucement? En train de dire. La réponse a été positive la première année. On s'en va vers une deuxième édition?
Oui, ben c'est, on le regarde un petit peu d'avance. Où est-ce que, justement, on fait un petit peu notre place, on débroussaille les côtés qui sont un petit peu plus compliqués. Puis ce qu'on espère faire, si les choses vraiment se vont bien puis qu'on a encore la même capacité dans notre agenda de temps libre à nos trois organisateurs de continuer ça, ça serait de revenir avec une autre édition l'année prochaine. Puis de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter justement pour la rendre encore plus intéressante, parce que la première année, il faut qu'on mette toutes les bases en place, le branding, ces genres de choses-là, qui elle est faite par Jenny-Lee Gagnon-Vincent, qui s'est joint à nous dans l'équipe d'organisation pour tout ce qui a rapport au design, puis a fait un très bon travail à ce point de vue-là. Puis c'est comment est-ce qu'on va construire sur les fondations qu'on a mises cette année par la suite. C'est pas encore garanti qu'il va y avoir une deuxième édition. Mais si les choses vont comme on s'attend qu'elles aillent, oui, ça serait quelque chose qui nous intéresserait de faire ça de façon récurrente puis plus continue à l'avenir.
Vous venez un peu de contrecarrer, on entend beaucoup les jeunes aiment moyennement réseauter. Et vous, avec Saga Kayo, vous démontrez que les jeunes aiment réseauter entre eux, comme quoi que vous avez 20-30 ans, à peu près la moyenne d'âge. Vous réseautez entre vous, c'est pas quelque chose qui est fait pour les personnes de 35 ans et plus, c'est vraiment...
Bon, on n'a pas vraiment non plus de public cible au point de vue démographique. Oui. Que quelqu'un vienne avec 65 ans et ça les intéresse, c'est tant mieux. Mais vraiment, c'est qu'on s'adresse quand même à un niveau, je dirais, étudiant professionnel, de gens qui en font de façon fréquente. Puis c'est vraiment... oui, c'est un peu l'idée que... je dirais pas le même réseautage qu'on a souvent dans des milieux d'affaires où c'est de faire des connexions à ce point de vue-là, des emplois, ces choses-là. C'est vraiment sur un volet vraiment plus souvent apprentissage, puis les gens qui aiment en parler de leur passion à ce niveau-là. Parce que souvent, c'est ça, au niveau de l'informatique, ça se passe beaucoup en ligne, sur Internet ou dans des plus grandes villes où est-ce que ça prend le temps de s'organiser. Mais je pense qu'on avait des assez de gens dans la communauté locale qui ont vu ce qui se faisait à l'extérieur puis qui s'en ennuient un petit peu en région. Puis on décide, je dirais, un peu de prendre le contrôle là-dessus, de si personne d'autre va le faire, ça va être à nous de l'organiser pour que ça se passe.
Pour une première édition, il n'y a pas d'historique. Non. Donc, pour approcher des personnes pour des keynotes, c'est, on va dire, un peu plus compliqué.
Oui.
Est-ce que tu peux un peu m'expliquer la journée avec comment ça va se dérouler durant ce lundi 7 octobre?
Oui.
Les conférenciers qui vont être présents, à quoi que le public peut s'attendre? Durant cette journée?
Oui, ben, étant donné qu'on fait une conférence qui est très, très générale, on a été chercher deux keynotes de l'extérieur, donc une qu'on va mettre le matin, une qu'on va mettre en soirée pour ouvrir puis fermer la journée. On va avoir Joel Lord, qui lui nous vient de l'Ontario, dans le coin de Toronto, mais il avait étudié en région ici. Puis lui, on l'avait recroisé, quelques-uns de nous, les organisateurs, au Web à Québec, par exemple, en conférence qui était là, où est-ce qu'on a pris l'information, pour ça serait une bonne présentation pour le public de la région, ouais. On l'a fait comme ça. Notre deuxième keynote, on avait annoncé PJ Haggerty, qui lui est aux États-Unis dans la région de Buffalo, a dû vraiment annuler un peu à la dernière minute. Donc, on l'annonce ici pratiquement en primeur, où est-ce que c'est Austin Parker, d'une compagnie qui s'appelle Lightstep à New York, qui lui vient nous présenter sur l'observabilité, le monitoring, comment les gens peuvent gérer la fiabilité de le serveur, puis toutes ces choses-là. Puis on les a pris vraiment dans un volet relativement technique, dans des choses où, qui sont un petit peu couvertes en région, mais pas trop. Donc on touche un peu à la sécurité, on touche un petit peu au monitoring, aux affaires d'opération, qui est quelque chose que je crois qu'en région, on a souvent un certain souci de ça, mais qui tombe un petit peu à l'extérieur du cursus de ce qu'on voit dans les universités et dans les cégeps en formation technique, qui tombent tous plus à l'apprentissage en entreprise. Donc nous, ça c'est quelque chose qu'on trouve intéressant. Puis dans le milieu de tout ça, on va avoir 5 présentations régulières, par des gens vraiment qui ont passé par notre appel d'offres qui est un petit peu public pour les présentations. On a des gens qui viennent de Québec, puis on a beaucoup de gens quand même qui viennent de la région pour ça. Puis là, on a, sur notre horaire au conférence.saclacaillot, on a plus de détails. Mais on a des présentations sur le mobile avec Flutter et Dart pour faire des applications. On a une présentation sur l'utilisation de PostgreSQL pour des datasets qui sont un petit peu plus gros, donc pour les gens en gestion de base de données. On a... une ou deux présentations qui sont reliées un peu plus au web, dans des démos, des frameworks, à ce point de vue-là, parce qu'on s'attend quand même à avoir une certaine présence de développeurs web dans la région. Exact. Je pense que c'est la grande majorité de ce qu'on a. Puis, on a quelque chose d'un peu plus général, une présentation qui s'appelle Naming Things, qui a vraiment rapport à comment est-ce qu'on fait pour bien nommer, faire une bonne nomenclature des éléments dans le code, qui est, au point de vue des développements logiciels, c'est une des choses qui est quand même les plus complexes, de bien choisir les noms pour communiquer l'intention dans du texte qui va être lu dans 5 ans par quelqu'un qui est complètement différent que les gens qui l'ont écrit. Donc, c'est dans ce type de présentation-là qu'on va. On va quand même vraiment avec quelque chose qui peut plaire à tout le monde. On essaie de bien orienter nos niveaux d'expérience, que ça fonctionne bien pour les étudiants, ça fonctionne bien pour les professionnels, puis qu'on ait quelque chose qui puisse satisfaire un peu tout le monde dans l'industrie de la région.
Parce que durant la conférence, il y a même des étudiants qui vont venir. Il y a eu des entreprises qui ont donné une somme d'argent pour être commanditaire,
oui,
pour offrir des billets à des étudiants, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, on a établi plusieurs niveaux de partenariat. On avait le or et le argent qui étaient quand même un petit peu plus, je dirais, dans le traditionnel, visibilité, ces choses-là. Puis, on a essayé aussi d'avoir le partenariat étudiant. Puis, c'est justement ces 3 entreprises de la région. Pour être sûr de ne pas en oublier, je vais dire aux gens d'aller sur le site pour les mettre. On les mettra dans la description du show à ce point de vue-là aussi. Puis, eux, vraiment, ont donné un montant forfaitaire qui était pour nous aider à faire la conférence. Et nous, en échange, on mettait 10 billets qui sont gratuits pour les étudiants, qui peuvent les commander sur Eventbrite. On fait la validation des cartes d'étudiants, l'entrée, ces choses-là, qui nous permet vraiment d'avoir un petit peu plus cet outreach-là quand on sait que dans la région, au niveau étudiant, les capacités ne sont pas toujours les mêmes, surtout un jour de semaine. Puis c'est important pour nous autres d'être aussi inclusifs que possible à ce point de vue-là. Puis, je pense que c'est un beau forfait pour les entreprises aussi qui peuvent plus tard se chercher des stagiaires ou des personnes embauchées en même temps. Là, je pense que c'est un gagnant-gagnant comme entente qu'on peut avoir à ce point de vue-là.
Dans les inscriptions que vous avez reçues, est-ce que vous voyez c'est principalement Saguenay-Lac-Saint-Jean ou ça vient aussi en dehors de la région? Est-ce qu'il y a des gens de Québec, de Montréal qui
viennent? C'est principalement Saguenay-Lac-Saint-Jean ce que je cherche, mais oui, on a des gens de l'extérieur qui sont intéressés à venir à ce point de vue-là. Quand on a parti la conférence, on a demandé un petit peu de conseils à des gens qui, eux, avaient organisé leur conférence dans le coin de Québec, justement, ou à Montréal. Puis ces gens-là ont leur propre réseau, puis ça s'est parlé assez vite. Il y a des compagnies qui ont acheté des blocs de billets puis qui vont venir en groupe pour voir ça dans la région. Donc, moi, personnellement, je suis content de voir ça parce que je suis très habitué à l'inverse, parce que les gens de la région se déplacent à Québec pour voir des événements. Puis de commencer à revirer un petit peu le bateau de bord est un petit peu intéressant de ce point de vue-là. J'aime ça quand même qu'on crée un petit peu ce pôle-là pour dire que en région, il y a vraiment des choses intéressantes qui se font au point de vue technologique, que c'est pas juste des contrats pour d'autres compagnies, puis quelque chose de... Il y a un centre technologique intéressant dans la région qui se développe à ce point de vue-là, puis c'est quelque chose que je trouve très intéressant à pousser puis à rendre plus public.
Avec JP, Émile et toi,
oui.
Est-ce que votre idée, c'est pas un peu de devenir un le WAC, mais version Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici quelques années, un genre de rendez-vous incontournable au niveau de la programmation?
Je pense que ça serait plaisant, mais ce n'est pas nécessairement un objectif tout court qu'on avait. Au niveau de l'IO, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on avait vraiment le IO Meetup, qui était la formule classique. À toutes les années, on avait une session vers le début de l'été, qu'on appelait le Meta IO, où est-ce qu'on revenait sur ce qui s'est passé dans l'année, qu'est-ce qu'on aimerait faire à l'avenir. Puis ça fait peut-être environ 2 ans qu'on parlait de ça serait intéressant d'avoir quelque chose de vraiment plus gros, plus officiel, point de vue conférence, juste parce qu'on aimerait ça l'avoir. Parce que souvent, les petits IO qu'on a dans les meet-ups, ça reste qu'on a quand même un noyau qui suit, puis ça reste très, très informel, plus parler directement. Puis on s'est dit qu'on serait dans une bonne position pour le faire. Donc, les complexités qui ont toujours rapport avec ça, c'est tout ce qui a rapport à la gestion de l'argent, ces choses-là, que cette année, on a eu Culture Saint-Jacques-Saint-Jean qui nous ont aidé en servant de fiduciaire pour toutes ces choses-là. Mais c'était vraiment, on n'a pas nécessairement comme objectif clair de dire on fait vraiment quelque chose de gros puis qui va devenir une référence. C'était vraiment par nous le désir d'avoir ce genre de conférence-là. On a plusieurs personnes dans nos regroupements qui, eux, justement, vont à l'extérieur pour voir de ces conférences-là, puis ils se disaient que ça pourrait être plaisant d'en avoir une locale. Puis c'est comme on disait, si personne d'autre l'organise, ça va être à nous autres de le faire, puis c'est un peu ce qu'on a décidé d'embarquer dedans.
Pour les personnes qui veulent se procurer les derniers billets, parce que on s'est dit avant de réaliser ce podcast, il reste à peu près une quinzaine de billets disponibles?
Oui, à peu près. Je pense qu'il n'en reste pas beaucoup plus que ça. Donc, ça a dépassé quand même nos attentes à ce point de vue-là. Mais pour s'y procurer, on a les liens par rapport à tout ça au conférence.saglac.io. On peut aller dans la page, dans le bas, il y a un menu pour aller chercher les billets. Puis ceux qui sont disponibles, s'ils sont encore là, vont pouvoir s'en procurer. Je crois qu'ils sont au coût de 35 $ pour les billets réguliers. Étudiants sont complètement gratuits sous preuve de validation à l'entrée de leur carte d'étudiant.
Puis, il y a aussi, on peut vous rejoindre aussi sur votre Facebook.
Oui.
Où ils ont fait un groupe Facebook.
Oui.
Saglac.io.
Saglac.io sur Facebook. On a une communauté sur Slack aussi, que je crois qu'on peut le trouver à partir de Facebook. Sur le site saglac.io, on a une mailing list pour les gens qui veulent avoir, plutôt une newsletter pour les gens qui veulent avoir des mises à jour de façon commune comme ça. On a un compte sur Twitter qui est un petit peu moins fréquent, mais on essaye d'avoir une présence un peu partout par rapport à ces choses-là. Mais généralement, saglac.io, à peu près à tous les comptes sociaux, si ça existe, on est dessus à ce point de vue-là.
Puis, il y a un beau partenariat, on peut l'annoncer, avec Monclavius.
Oui.
Est-ce que tu veux en parler de ce partenariat?
Oui, donc Monclavius qui se porte pour être partenaire médiatique par rapport à justement la conférence. Et puis, nous, en échange qu'on fait par rapport à ça, c'est présence de blog posts qu'on écrit pour aller sur Monclavius. Ouais. Je crois qu'on a Jim qui en avait écrit un déjà sur le passé sur qu'est-ce que ça voulait dire pour lui d'avoir le saglac.io. J'ai commencé à écrire quelques séries de petits articles justement sur un peu le contenu qu'on a aujourd'hui. Prochain va être vraiment plus par rapport à la conférence et choses-là. On espère faire un follow-up aussi après la conférence de qu'est-ce que ça a voulu dire. Puis oui, c'est quelque chose que je trouve très intéressant qu'on ait encore un autre petit pôle médiatique qui est un petit peu plus dédié à la technologie dans la région. C'est quelque chose que personnellement je trouvais très intéressant et que ça me faisait plaisir d'avoir ce partenariat-là.
Puis le 7 octobre, on va réaliser un podcast directement lors de la conférence avec des conférenciers. On va parler aussi aux organisateurs, peut-être même aussi des participants, des ceux qui sont là pour assister aux conférences. On va couvrir aussi à travers un article sur Monclavius la oui. conférence de Saglac.io. Puis c'est très apprécié ce beau partenariat entre nos deux entités.
Oui, absolument.
Ben, merci beaucoup Frédéric.
Oui.
Longue vie à Saglac.io et à la conférence. Puis
oui,
on se retrouve avec le mot de la fin. Pour terminer ce second podcast, Saglac.io souhaite remercier différents partenaires. Donc, dans les partenaires OR, nous retrouvons MapGear, Equinox, TLM, Tamisphere. Dans les partenaires argent, il y a le Collab, Innovation sociale et culture numérique, Ubisoft, Saguenay, Missive. Partenaires éducation, il y a Divicom, Conformit et CJ. Dans les autres partenaires, il y a Culture, Saguenay-Lac-Saint-Jean, JM d'Écosse, photographe et naturellement Monclavius qui sera présent pour la conférence du 7 octobre à Saguenay. Merci beaucoup d'avoir écouté ce second podcast de Monclavius et on vous dit à la prochaine. Merci, au revoir, salut!